Je suis Charlie Desbords, éducatrice et coordinatrice à l'association Réduire les risques, porteuse du CARU de la boutique.
Bonjour, moi c'est Julie Cascales, je suis monitrice éducatrice au sein du CARU de la boutique. Donc un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Nous sommes une structure médico-sociale. Je ne sais pas si le micro c'est bon, ouais, pardon, oui, pas trop l'habitude. Donc nous sommes une structure médico-sociale et nous répondons à une mission de santé publique puisqu'on va tout d'abord faire de la délivrance de matériel stérile et à usage unique à destination des consommateurs, consommatrices, dans l'idée de prévenir des séquelles liées à la consommation de substances.
On va vous présenter l'émission du. Pardon, on va vous présenter l'émission du CARUD. Bon, il y en a pas mal d'entre vous qui nous connaissent déjà, mais on va quand même faire un petit rappel. Donc, le cœur de notre de nos missions, c'est l'accueil de jour. Notre accueil de jour a cette spécificité qu'il accueille exclusivement des femmes, hormis une petite particularité sur une demi-journée par semaine. Mais sinon, tous les après-midi, de 13h30 à 17h, nous accueillons uniquement des femmes. Pourquoi ? Ce n'était pas le cas au tout début, mais il s'est avéré que, alors je n'étais pas là à cette époque-là, mais que l'ancienne équipe et l'ancienne direction ont repéré que les femmes désertaient un petit peu le lieu, que quand elles passaient, elles n'y restaient pas longtemps. Ce n'était pas vraiment un lieu refuge pour elles, elles étaient souvent en insécurité du fait de la présence des hommes. Donc l'idée est venue d'en faire un lieu pour les femmes. Et en plus de ça, à ce moment-là, il y avait deux CARUD à Montpellier et la superficie de la ville ne justifiait pas vraiment la présence de ces deux CARUD. Donc de devenir un CARUD uniquement féministe était, nous permettait de conserver les financements de l'ARS. Donc CARUD femmes, et on a vu que c'était très vite devenu un refuge pour ces femmes qui s'y sentent en sécurité, qui passent souvent l'après-midi entière, qui peuvent venir se réfugier après une nuit dans la rue qui a été traumatisante ou pour fuir un compagnon violent. Nous, on a une porte qui est fermée, les femmes, il faut sonner pour rentrer. On ouvre la porte, nous, on la referme, nous. Personne ne peut aller et venir dans le CARUD. Donc voilà, c'est très vite devenu un refuge pour elles. Donc sur notre accueil de jour, on a un service de petites collations, de machines à laver, de laverie, de douches, de friperies qui fonctionnent avec l'aide de dons que nous recevons régulièrement, des casiers pour les personnes qui sont à la rue, un service social, accompagnement social, ouverture de droits, recherche d'hébergement et domiciliation postale. Et nous avons également une infirmerie avec la présence, on a deux infirmières, et donc avec la présence d'infirmières tous les après-midi, sauf le mercredi pour le moment. Voilà, on a également des actions hors mur. Attends, j'ai pas oublié un truc. Non, c'est bon. Des actions hors mur que Julie va présenter.
Oui, du coup, on étend l'action aussi en dehors de la structure, puisque on va être porteur d'un programme d'échange de seringues en pharmacie. Donc, l'autre CARUD de Montpellier s'occupe des pharmacies de Montpellier. Nous, on va aller sur le bassin de Thau, du côté de Frontignan, Sète, tout ça. L'idée étant d'aller à la rencontre des pharmaciens et de leur proposer de leur livrer régulièrement des kits experts. Donc en fait, ce sont anciennement, on connaissait plus le nom Steribox. Donc ce sont des kits d'injection à moindre risque. Et la plupart du temps, ces kits-là, ils sont vendus à un prix symbolique de 1 euro. Mais nous, on propose de poursuivre la chose en amenant des kits gratuitement aux pharmacies pour qu'à leur tour, elles se fassent le relais et qu'elles le délivrent aux consommateurs qui viennent à la pharmacie pour avoir du matériel. Parce qu'il n'y a pas de CARUD dans toutes les villes de France. Notamment à Sète, il n'y en a pas, à Frontignan non plus, alors que des consommateurs, il y en a. Donc, afin de permettre que les consommateurs aient accès à du matériel propre, stérile, du coup, on se fait le relais avec les pharmaciens. Voilà. On en est où ? Ah oui, on fait également des maraudes. Hein. Donc, alors, actuellement, un peu moins ce que ça a pu être. Puisque autrefois, on faisait des maraudes tous les après-midi dans le quartier de Figuerolles, donc tout autour de la cité Gély, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier. L'idée était d'aller à la rencontre potentielle de consommateurs, de pouvoir faire un peu de la médiation, d'apporter aussi, enfin de venir à eux, on parle d'aller vers pour amener du matériel propre. Et puis aussi avoir un discours préventif, faire de la médiation avec les riverains, quelquefois ramasser le matériel usagé laissé sur place. Et après, on fait aussi des maraudes du soir, celle-ci, elle perdure encore. Et on va plus sur le centre-ville de Montpellier pour, pareil, aller à la rencontre des personnes qui ne viennent pas jusqu'à nous et faire connaître notre action. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est bon.
Voilà, ta page. Ta page, alors je vous en parlerai un petit peu plus cet après-midi. Ta page, c'est un programme qui est national dans plein de villes de France, mais du coup, c'est toujours un Carud ou un XAPA qui est porteur de ce dispositif. Ta page, ça veut dire travail alternatif payé à la journée. Je réinterviendrai cet après-midi parce que je suis référente du programme et du coup l'idée étant de proposer des plateaux de travail pour des jeunes entre 18 et 25 ans. Voilà, mais j'approfondirai cet après-midi.
Oui, ensuite on intervient également à la maison d'arrêt de Nîmes auprès des femmes consommatrices qui nous sont orientées soit par l'unité sanitaire, soit par le XAPA Addiction France, et c'est souvent des femmes du coup qui viennent de Montpellier ou de l'Hérault, et on se partage les accompagnements avec le XAPA Addiction France. Donc on travaille la réduction des risques, mais aussi on travaille essentiellement la sortie. Voilà, et on a des actions de sensibilisation chez les partenaires dans les structures du social et du médico-social, là comme ce matin, ou également dans les centres de formation. Voilà. du coup,
ah oui. Donc on a des petits films à vous montrer parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant et que ça donnait une meilleure idée de notre accueil. Et en plus, on laisse la parole aux usagères, donc c'est un peu génial. J'espère que le son ça ira. Juste, ce que je voulais dire avant, c'est que ce qui est important à noter, c'est que quand on parle de sans-abrisme et d'addiction, on pense souvent à des figures masculines. Pardon, vraiment, je n'ai pas le truc du micro. Hein. Je parle les mains. Bon. On pense souvent à des figures masculines et qui sont assez visibles dans l'espace public. Et en fait, de nombreuses femmes sont amenées à vivre le même genre de situation. Et pour autant, elles sont bien moins visibles. Donc, ce petit film, il illustre un peu ça. Il faut savoir que les femmes qu'on rencontre dans notre travail au Carud, c'est des personnes qui souvent sont en situation de grande précarité, voire à la rue, dans un parcours de rue. Donc, fréquemment, il y a de la polyconsommation qui va avec, de l'alcool, des médicaments, des substances illicites, et quelquefois tout à la fois. Et ceci, c'est souvent la résultante de parcours de vie marqués par des traumatismes, de la violence, de la rupture familiale ou institutionnelle. Magnéto.
Si le son est mauvais, on l'arrêtera malheureusement, mais c'est dommage parce qu'il est très chouette. Il a été réalisé par des étudiants, étudiantes. Putain, moi aussi le micro, je ne l'ai pas. Pardon. Par des étudiants et étudiantes qui sont venus chez nous pour réaliser ce petit docu. Et il est assez touchant, j'espère que ça marchera. Il y en a qui sont là, c'est très chouette.
Bonsoir.
on avait dit. Ça, je ne l'ai pas trop.
C'est toi qui enchaîne, là.
Ah oui. Voilà. Du coup, ce petit docu montre les femmes qu'on accompagne et qu'on reçoit. Il faut savoir que la plupart des femmes que nous accueillons sont des femmes qui sont à la rue et que la rue est un environnement extrêmement violent pour ces femmes, qu'elles subissent des violences psychologiques, physiques, sexuelles très régulièrement, voire parfois quotidiennement. Et qui ont aussi vécu très souvent des violences par le passé et dès l'enfance. À ce moment-là, les consommations, les substances viennent comme une béquille pour les aider à affronter leur quotidien, pour les aider à oublier, à s'anesthésier, à dormir ou parfois à rester bien réveillées. Et que ces femmes qui ont vécu tous ces traumatismes déjà parfois depuis leur plus tendre enfance en revivent encore et encore en étant à la rue. Et que l'hébergement pour les femmes à Montpellier est complètement saturé, que du coup elles restent d'autant plus à la rue et qu'elles resubissent de nouveaux traumatismes et que les consommations augmentent. Et très souvent, le jour où elles arrivent à accéder à un hébergement, ben, il devient très difficile de le garder. Nous, on se doit d'avoir une approche extrêmement attentive et progressive avec ces femmes afin de pouvoir créer du lien en prenant notre temps. On a la chance de pouvoir prendre notre temps, nous. Et on fonctionne sur un principe de libre adhésion, donc elles viennent et repartent comme elles veulent. Notre accueil n'est pas contractualisé. Donc on prend le temps, on les accueille, on discute autour d'un café, on ne parle pas forcément tout de suite de réduction des risques, de consommation. On crée du lien et une fois que ce lien est créé, qu'elles se sentent en sécurité, pas jugées par leur mode de vie à la rue, pas jugées par la prostitution, pas jugées par des consommations, pas jugées par une grossesse. Là, on va pouvoir travailler la réduction des risques. Mais tout ça prend beaucoup de temps. J'ai pas regardé mes notes, du coup. Je crois que...
Oui, c'est ça. La relation précède le changement. Souvent, on dit que les CARUD, on est une structure un peu de première ligne, puisque les personnes, elles peuvent s'adresser à nous, même sous l'effet de substances. Ce n'est pas un motif pour qu'on ne leur ouvre pas la porte, si tant est que le comportement puisse être en adéquation avec le collectif, hein, évidemment. Mais du coup, il y a des personnes qui avec qui on est le seul lien avec la société, enfin, qui se sont isolés et qui vont fréquenter uniquement un CARUD. Et donc, tout ce travail-là, pour faire du lien ensuite avec les partenaires comme Corinne ou quoi, ben, ça prend du temps et c'est indispensable de travailler en amont, de toute façon, la relation pour qu'il y ait ce lien de confiance.
On met le petit podcast ?
On met le petit podcast.
Petit enregistrement. On a décidé de...
D'illustrer
pas mal nos propos par des petits docus et des témoignages de femmes qui sont les meilleures pour en parler. Mais moi, je ne suis pas très forte avec l'informatique.
Là, ouais. Ouais.
C'est pas facile aussi.
Consommation. Wow. Utilisation plus ou moins prolongée d'un produit dont elles ne pourront plus se passer. Comme un remède à l'existence. Il y a des rencontres qui changent une vie. Elles, amies fidèles selon elles, elles vivent fièrement, elles existent. Au début, elles pensaient juste que ça leur ferait du bien. Puis, petit à petit, elle a très vite fait partie de leur quotidien. Quand elles s'éloignent, c'est perturbant. Elles avancent, elles essaient. Elles avancent encore, passant mal, en essayant de l'éviter. Mais sur leur chemin, elles déposent sournoisement isolement et exclusion, leur faisant perdre leurs repères et menant sans cesse à d'incessantes interrogations. Qui sont-elles? Que vont-elles devenir? Qui va les aider? Elles leur manquent. Petit à petit, ce manque grandit jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer. Elles sont en manque. Le temps paraît long, en perte d'identité, elles vivent en décalage. Elle a tellement d'impact sur leur vie, leurs histoires, leurs rituels, leurs habitudes. Construction de ce qu'elles sont, construction de leurs identités, qui souvent, bien trop souvent, les fait retomber. Leur combat est douloureux, comme un abus de force, un acte violent. Pour elles, la violence, ce n'est pas l'acte, mais le manque. Cette torture mentale. Torture mentale dans leurs moyens de vivre, dans leurs moyens de consommer, dans leurs moyens d'exister. Leur violence, c'est aussi nous, des regards insistants, de fausses croyances persistantes, des silences si bruyants quand nos yeux étrangers à leur monde croisent les leurs et se détournent. Leur violence, c'est aussi malgré ce sentiment de liberté, cet endroit familier, malgré ses dangers, mais la rue. Et toi, tu me dois 50 centimes. Elle s'est fait tuer pour une dose. On vous met des cachetons dans votre bière et on vous dépouille une fois endormie. Elle se cache pour survivre. Elle, ce sont ces femmes que la rue rend fortes mais tellement vulnérables. Ce sont ces femmes souriantes et débrouillardes qui, sous couvert d'amitié, peuvent facilement se faire trahir pour une dose. Elles, ce sont ces femmes visibles à chaque coin de rue que nos yeux détournés finissent par rendre invisibles. Elles, ce sont ces femmes nombreuses, mais tellement seules face à elles-mêmes et à leurs problèmes. La rue les cherche, les berce, les attache, les divise, les cache, les écorche, tout en étant leur plus grande force. Comment en sont-elles arrivées là? En regrettant, bien souvent, cette première fois, celle de trop, ce geste anodin et si rapide, illusoire de bonheur, ce leurre qui les amène sous fond de bonheur au simple fond, ce musée momentané dont elles prennent en perpétuité. Ces femmes, ce sont Rita, Steph, Manu, Elsa et Isa, et tellement d'autres encore qui avancent sur une route semée d'embûches de jour comme de nuit, en gardant l'espoir d'un jour pouvoir enfin sortir de ce brouillard.
Voilà. Merci. C'est donc un petit podcast qui a été écrit par plusieurs des usagères qui fréquentent notre lieu d'accueil. Et c'est chouette de pouvoir le valoriser à l'occasion de temps comme ça, parce que ben, du coup, ça met un petit peu en lumière aussi ce qui peut se passer au sein du Carud. C'est super important d'aller sur d'autres choses. On essaye aussi d'organiser des séjours pour partir, enfin sortir les personnes d'un environnement dans lequel elles peuvent très vite s'engouffrer avec un engrenage lié à la consommation, où quelquefois c'est la manche, aller acheter le produit, consommer, retourner faire la manche, aller acheter le produit. Et donc c'est indispensable de permettre d'accéder à d'autres horizons, enfin de voir d'autres choses pour pouvoir ensuite travailler une projection. Voilà, et donc je voulais ressouligner, même si on l'a déjà dit auparavant, que les femmes, elles subissent vraiment une forte stigmatisation, surtout les femmes consommatrices. Elles peuvent ressentir beaucoup de honte et de culpabilité liées à leur consommation, et donc une peur importante du jugement. Et ça rend souvent difficile la demande d'aide de leur part. C'est compliqué. Quelquefois, il faut aller les chercher, parce qu'il y aura une autre petite vidéo qui l'illustre très bien aussi. Ce sentiment de culpabilité et de honte les enferme. Et donc voilà aussi le travail qu'on essaye de faire avec Charlie et tout le reste de l'équipe, où on va essayer d'aller les chercher tout en respectant leur temporalité.
Je mets les deux petits témoignages.
Oui, je pense que tu peux enchaîner. Ouais,
mais oui, pour juste rajouter sur ce que tu disais, on a constaté, enfin les chiffres montrent une grosse augmentation des consommations chez les femmes. En revanche, les chiffres des fréquentations des Carud et Xapa depuis les années 90 sont quasiment inchangés. Donc, d'où le fait qu'elles ne viennent pas demander de l'aide, de peur d'être stigmatisées. Donc là, c'est deux témoignages qui se suivent?
Oui, oui, oui.
Ok.
Ça va bien, je vais aujourd'hui. Je vais vous dire. marqué en même temps dans votre sujet. Moi, j'ai juste suivi mon domicile conjugal pour des violences. Donc, ici, c'est très bien, mais ça me rappelle que les autres, vraiment, moi, ça me touche. Oh, moi, ça me touche un peu. J'oublie moi-même que du coup, je fais mal, en fait, tu vois. J'ai l'impression que les autres ont beaucoup pire que moi et qu'ils se font beaucoup plus mal que moi. Ils ont plus besoin d'être aidés que moi. Donc, au final, je suis allée dans la galerie à ce point de chez moi, mais j'ai rien appris plus pour moi.
J'ai rien fait.
Non, ça va, ça se passe bien. Maintenant, j'ai
fait autre chose. Ah, mais c'était fini en fait, non?
C'était fini?
Ouais.
Ah, pardon.
Ah,
bah je mets l'autre alors. Et l'autre, il fait peur.
Oh! J'ai aussi l'habitude qu'on me connaisse sur Alias Linda. Alors, moi, je suis une ancienne prostituée qui travaille aux assos. Et je consomme beaucoup à la cocaïne. Et cette association, je la connais depuis l'âge de 20 ans, j'ai 47 ans maintenant. Et elle m'a beaucoup aidée. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté de faire la prostitution parce qu'ils m'ont trouvé un foyer à Rodin. Et dans pas longtemps, je vois un appartement. Et je me suis même calmée d'abord. Je me suis calmée parce que j'ai un truc dans le nez. Je me suis calmée. Ça veut dire que j'ai dit, je suis en cause. Parce que je suis touchée à la cocaïne depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé au Bois de Boulogne et j'ai travaillé pendant 20 ans aux assos. Et à la ville de Toulouse, le soir. Je me faisais 500, 600 euros et je mettais tout dans la poche. Et là, je ne travaille plus, ça fait 6 mois. Je suis une convention d'aide du monde handicapé. Et ça me va très bien, je me sens mieux dans ma tête. Oui, je vais mettre encore un appartement à 500 bidas, soit une aide. Voilà. Et après, j'aimerais bien faire une formation comme outil de vie avec une personne âgée. Mais pas à la maison de retraite, parce que la maison de retraite, elle a mort. Et moi, je m'attache à aux personnes âgées. Et j'aime
que l'aide soit pour moi.
Aller
chez eux,
leur faire
le ménage, les courses. Parce que j'ai toujours été dynamique.
Voilà, Oux.
Voilà, du coup, on termine. C'est... J'avais une petite conclusion, mais je ne l'ai plus trop. Oui, pour dire que pour nous, la réduction des risques, c'est aussi de lutter contre l'invisibilité de ces femmes, de savoir les écouter, les valoriser et surtout de maintenir des lieux, ça nous semble très important, des lieux réservés aux femmes en non-mixité. C'est un manque cruel et un besoin réel.
Hey,
voilà,
ça
vient de sortir.
Manque cruel.
Yeah. Attendez. Il y avait... voilà, c'était ça que je voulais mettre. les adresses mail, les numéros et tout ça. Voilà.
Voilà. Après, on est partie prenante pour que ce temps-là soit participatif. Donc, n'hésitez pas si notre présentation, elle a inspiré des questions. On sera ravis d'y répondre. Et puis sinon, c'est qu'on a été très, très clair et qu'il n'y a rien à rajouter.
Bien dit. De salariés, on a un petit organigramme. Il n'y a pas de bénévoles actuellement à la boutique, il y en a eu, il pourrait y en avoir prochainement, mais là on n'en a pas. On est six éducateurs, une directrice, un chef de service, une coordinatrice et une secrétaire de direction. Et deux infirmières
ouais,
actuellement.
Quand même.
Pardon, j'oublie toujours un truc.
Il y a une question là-bas.
Quand vous allez au Maraude, vous allez exclusivement à
rencontre
du public féminin ou...
Non, non. C'est bon, ça ? Oui, ça marche. Non, là, quand on est en Maraude, on s'adresse à tout le monde. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'être sectaire. Hein. C'est juste les locaux. Enfin, au sein de l'accueil, c'est accessible qu'aux femmes. Hormis, comme l'a dit Charlie, un après-midi par semaine, où là, c'est un autre public qui est ciblé, puisque c'est les 18-25 ans, et là, on fait de la mixité. Et par contre, sur le restant des actions en dehors des murs, on s'adresse aux consommateurs en général. Donc, non, ce serait un peu particulier d'aller en ville et puis, du coup, de parler qu'aux femmes. C'est pas l'idée non plus de rejeter les hommes, mais c'est de... surtout permettre un lieu refuge et une mise à l'abri. Voilà.
Oui, parce que d'ailleurs, on fait de la délivrance de matériel également pour les hommes. Hein. La réduction.
Ma question, c'était dans le sens où, comme il y a le deuxième cas rude,
oui.
Que certainement font aussi des
maraudes. Oui. Non.
Ouais.
Non. Ok. Non, non, non. Non, non.
Non, parce qu'effectivement, ils font des maraudes aussi, mais on n'est pas sur les mêmes secteurs. Donc, de toute façon, on essaye de se compléter comme ça. Mais oui, oui, c'est chouette de pouvoir dire qu'il y a un autre Carude qui fait de la mixité quand nous, parce que bon, c'est aussi des réactions de la part des hommes qui questionnent et qui disent mais comment ça, pourquoi nous on ne peut pas rentrer, pourquoi nous on ne peut pas avoir accès aux locaux. Et ben, on en discute, mais voilà, bien souvent la réponse c'est que comme il existe un autre Carude à Montpellier qui fait de la mixité, on peut se permettre ce choix. Voilà.
Les maraudes, vous les faites à pied, en moto, en voiture, en véhicule
À pied.
À pied.
En Doc Martens. oui, non, à pied. Bah, parce que comme la structure, elle est quand même l'emplacement, on est avenue Clémenceau, à côté du Lidl, là. Et donc, on n'est pas loin du centre-ville et de la cité Gély, enfin, et de Figueroles. Ça va, on peut se permettre. Mais quelquefois, ça nous est arrivé d'utiliser un véhicule pour aller explorer des lieux où on nous avait signalé du squat ou de la consommation et voir si c'est pertinent au final, comme au Beaux-Arts. On ne va pas jusqu'au Beaux-Arts, par exemple, mais quelquefois, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des figures connues.
Il y a Maëlle qui a une question.
Je ne sais pas.
Si on accueille des enfants, l'accueil est ouvert aux mères, aux enfants, oui. Oui. Le soutien à la parentalité, on le fait plus ou moins, mais en partenariat avec la grossesse, en tout cas, on le fait beaucoup en partenariat avec Corinne Chanal. Et après, le soutien à la parentalité, bien sûr, en partenariat avec d'autres associations. On n'a pas beaucoup d'enfants en ce moment, non pas qu'il n'y ait pas eu de grossesse, mais malheureusement, ça ne tient pas trop. Donc là, on en a très peu en ce moment des enfants, mais oui. Et puis, on a un petit peu remodelé l'espace d'accueil, mais il y a encore 2 ans, dans l'espace d'accueil, on avait un espace dédié aux enfants, avec un toboggan, avec tout un tas de jeux. Aujourd'hui, ça ne nécessitait plus vraiment la présence de ce petit espace. Ouais. Mais oui, bien sûr, les enfants sont bienvenus. C'est bon ? C'est tout bon ?
Le travail sur les violences, vous travaillez avec qui ?
Le travail sur les violences ?
Oui.
Comment ça ?
Violence, psychotrauma.
Oui, tu travailles pour les violences.
Ah
oui.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé, alors qu'on a les attestations de.
Oui. Non, mais avec qui on. On travaille avec la Maison des Femmes. Avec la Maison des Femmes, beaucoup. Mais. attends, on avait un petit truc avec le. Je ne sais plus où c'est.
Si, c'est là.
Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais oui, essentiellement avec la Maison des Femmes. Quand elles sont arrivées, les rendez-vous pouvaient être pris super rapidement et c'était très intéressant. C'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, en fait, on galère un petit peu et on se retrouve un petit peu démunis pour l'accompagnement aux femmes victimes de violences. Et ça, on n'en a pas trop parlé parce qu'il faudrait vachement le développer, mais pour les pathologies duelles et la psychiatrisation du public, et ben là, on est sacrément emmerdés. non, mais c'est très, très compliqué et on est un petit peu démunis. On travaille bien évidemment avec le MIP, évidemment, et Céline qui vient toutes les semaines nous rencontrer et également un psy de l'UMIP qui vient tous les mardis. On a une grande chance d'avoir ça, heureusement qu'on a ça, mais on aimerait bien avoir un peu plus. C'est encore un autre sujet, mais oui.
Okay, pour les violences.
Après, au niveau des violences, régulièrement, quand ça se présente et qu'une personne vient nous déposer des faits subis, Alors, on a ces modèles d'attestation où on va... Parce qu'en fait, tout le travail, c'est aussi de savoir si la personne, elle veut aller jusqu'à porter plainte. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, nous, ce qu'on propose, c'est de recueillir la parole et de prendre des notes pour constituer un dossier qui, peut-être plus tard, pourra servir s'il y a une démarche de plainte. Ouais. Et après, ben, quand la personne est sûre d'elle et qu'elle souhaite déposer plainte, et ben, physiquement, on accompagne à la police, quoi. Parce qu'on sait que c'est pas facile et que des fois, elles n'ont pas toujours été très bien accueillies. Alors, des fois, très bien et d'autres fois, beaucoup moins.
On accompagne, on a un numéro aussi privilégié qu'on peut appeler pour avoir un rendez-vous plus rapide et être à peu près, enfin, espérer que la personne soit mieux accueillie, mieux écoutée. Voilà. Mais la Maison des Femmes a aussi un dépôt de plainte direct sur la Maison des Femmes, donc c'est d'autant plus intéressant, mais je ne sais pas à quelle vitesse elles peuvent avoir un rendez-vous.
C'est un peu long.
Ouais. Voilà.
C'est tout bon ?
C'est bon ?
Ben merci.
Merci. Pardon, je ferme pas.
Pardon. J'ai tout touché.